Bienvenue à bord du vaisseau Hyper Sensas.
Booyah !
Hey, bienvenue dans Croissant Outcast numéro 2. Déjà ?
Quel le temps passe vite.
Oh, le pas de côté de notre émission habituelle Comics Outcast consacrée au comic book. Quel est le concept de Croissant Outcast, me direz-vous ? Le concept est que nous allons parler de recueils de comics américains en VF, mais aussi de BD franco-belges, belgo-françaises, helvético-canadiennes, qui font vibrer notre petit cœur de fan et dont nous souhaitons vous parler. Bienvenue dans le multivers. Nous aussi, nous avons été touchés par cette vague mondiale. Mais sans embâge, sans plus attendre, je vais me tourner vers XT pour lui demander, XT, de quoi souhaites-tu nous parler ?
Eh bien, je vais vous parler d'une œuvre qui est sortie récemment chez Urban Comics. Elle est au prix de... C'est une très bonne question, je ne me souviens plus.
Aïe.
Ah là là. Aux alentours de 30 euros. Oui, je pense que là, je ne pense pas trop me mouiller.
Non, ça devrait aller.
Et donc, je vais vous parler de Alan Moore présente DC Comics. Pourquoi ce titre-là ? Parce qu'on va parler donc, d'un auteur assez réputé, Alan Moore, mais on va surtout aussi parler de qu'est-ce qu'il a pu le faire connaître avant qu'Alan Moore devienne Alan Moore, fondamentalement, presque. Même si...
Alors, par contre, si tu veux nous parler de son enfance dans le Sussex...
Oula.
30 euros tout pile, pour info.
Ouais, donc voilà, merci.
Parfait.
Donc sorti aux éditions Urban Comics, tout à fait. Donc c'est quoi ? C'est un recueil de récits chez DC. Donc Alan Moore qui va nous parler de, va écrire sous différents titres. Donc c'est-à-dire qu'il va nous écrire du Superman, du Batman / Swamp Thing. Il va nous parler aussi du Vigilante. On va avoir aussi de l'Omega Man et donc différents titres comme ça. Alors je vais pas évidemment tout parler de tous ces titres, je vais parler de ceux qui sont les plus marquants ou qui m'ont les plus marqué, et je vous garde aussi la petite surprise du chef qu'ils ont réservée pour cette édition pour la fin. Donc moi je vais vous parler aussi du premier titre qui va nous évoquer un comics qui est un des premiers Superman que j'ai lu moi de ma vie en l'occurrence, que j'aime beaucoup, qui est un arc du coup en 40 pages qui va nous raconter l'histoire de Superman qui est sous une emprise psychique. Pour son anniversaire, on a Robin, Batman et Wonder Woman qui vont le voir dans sa forteresse de solitude, qui le trouve en train de rêver avec une espèce de gros morceau organique au niveau du torse.
Une plante de l'espace collée sur le torse.
Voilà.
Oh.
Et en fait, il se trouve que notre cher Superman est en train de rêver de sa vie sur Krypton, comme si de qu'est-ce qu'elle aurait été s'il avait toujours été là-bas.
What if,
une forme de what if, tout à fait. Et évidemment, l'expression qui dit n'est pas coutume à la fin, je vous dira que, écoutez, j'aime encore une histoire de fascisme et de nazis, comme je les aime.
attends.
C'est-à-dire qu'en fait...
Nous c'était cela d'Arizon, bien sûr, de cette
voilà,
homme.
Hors du contexte, c'est un peu bizarre.
Bien sûr.
Tu te réécouteras, mais...
Contexte d'interrogation. Ouais. Enchaîne.
Et donc, nous avons Superman qui rêve de cette Krypton qui va devenir... beaucoup plus nazi, en fait, concrètement, qui va plonger vers le fascisme. Donc, ils sont des thèmes forts, hein, relativement à l'amour. Hein, on rappelle V pour Vendetta quand même, hein, les problèmes politiques et sociétaux de ce genre-là sont pléthores dans son œuvre. Et donc, on va avoir l'intérêt, en fait, est plus là-dessus. Après, on va avoir nos protagonistes pour son anniversaire qui vont essayer de libérer Superman de cette emprise et de cette manière-là. Donc, Superman qui essaiera de devenir plus fort psychologiquement que de se laisser avoir par ses fausses illusions. Donc, ça, c'est un des premiers récits qui était vraiment très intéressant et qui, du coup, m'a beaucoup marqué en tant que lecteur. C'est pas un titre indispensable, une lecture indispensable, mais. Elle est quand même vraiment.
Ça a beaucoup marqué à l'époque. Hein.
Ouais.
D'ailleurs, cette plante, on la reverra de nombreuses reprises. Dans les récits, ouais.
Mais moi qui suis pas un grand, à chaque fois que j'ai eu du Superman, je suis relativement déçu. Enfin, je suis relativement même du John Byrne, je l'aime bien au début, mais je m'y ennuie vite.
Attention.
Et battez-vous.
Et pourtant là, ce petit arc m'a énormément convaincu. L'autre arc que je vais vous parler, c'est aussi encore un autre arc avec Superman. Donc on va avoir une interview d'un journaliste, Tim Crane, qui va voir Lois Lane et qui va lui demander. Où est Superman ? Qui est Superman ? Enfin, on va voir une forme de rétrospective de Superman, donc vu sous les yeux de Lois Lane, et façon presque pas Kingdom Come parce que c'est un peu l'inverse. Comment dire l'histoire d'une vie en fait. On va voir un peu l'histoire d'une vie d'un personnage. Et on va essayer de comprendre pourquoi Superman n'est plus là. Est-ce qu'il serait peut-être mort ou absent. Et Moore en profite pour vraiment nous refaire tout cet arc sur la vie de Superman, ce qu'il représente, ce qu'il est, et qui va le plonger dans ses défauts. Ce qui est marrant, c'est qu'il va, s'amuser à aller nous piéger, nous lecteurs, dans cette histoire, à nous raconter une histoire, mais on ne sait pas si elle est entièrement vraie ou pas, parce qu'elle est racontée par Lois Lane, qui ne s'appelle plus Lois Lane, mais Lois avec un autre nom de famille, et qui nous emmènera vers un certain twist final qui est plutôt satisfaisant. Ça, c'était une des très bonnes histoires. Une autre
Juste pour le contexte de cette histoire qui est intéressant, c'est que c'était au moment de Crisis on Infinite Earths, et donc c'était censé donner une fin au Superman des origines, on va dire, de toute la première période d'ici. C'était assez touchant pour l'époque, ouais.
Et donc après, on a d'autres histoires que j'aime beaucoup, que sont beaucoup plus terre à terre. On a du Batman un peu qui est Batman plutôt on va dire film noir, mais rien d'exceptionnel, mais plutôt sympa.
Il y a toujours des petits trucs. Mais tu vois là, dans chaque récit,
Lux va adorer, c'est sûr.
Et
oui, surtout avec Batman.
Mais en fait, c'est ça aussi que grand luxe, qui est le grand plaisir de ce bouquin, c'est Alan Moore. C'est pas un écrivain. Il a pas gagné sa réputation pour rien. C'est quelqu'un qui a toujours la petite bonne idée. Typiquement, alors une autre histoire qui est assez sympa, on a l'histoire de là, et ça c'est plus pour l'époque, qui peut être marquante. On a l'histoire littéralement d'un criminel avec sa femme battue, et cette histoire elle est super dure, elle est hyper hyper rude cette histoire. Sur ce vigilante qui se fait cette espèce de super-héros, qui n'est pas vraiment super-héros, mais qui va essayer de faire la justice contre la veuve et l'orphelin, et va justement essayer de sauver la femme battue face à son au mec qui la tabasse régulièrement.
Street level.
Ouais, très street level.
Street level, hashtag Regan level même, puisque le vigilant justement est un personnage très, très porté dans un sens.
Oui. Ouais, et c'est évidemment, tout est extrêmement politique dans cette histoire. Tout est plutôt bien amené. Et surtout, le final est très gris. Enfin, il paraît, encore une fois, il est très surprenant comme récit. Et quand je me réussis de me repenser à le lire à cette époque-là, je me dis, ah ouais, oui, c'est... Contextuellement, ça doit être vraiment quelque chose. Et moi, le récit qui m'a le plus marqué de tous, c'est un récit en 5 pages. Et oui, il y a quelques récits en quelques pages. Il s'appelle Vie brève. Et il y a une poésie impressionnante dans ces 5 pages qui nous montre la vie sous différents angles entre le micro et le macro. Et ces 5 pages, ne serait-ce que pour elles, valent le prix du bouquin. J'exagère un peu, évidemment, parce qu'on parle de 5 pages, mais elles sont vraiment exceptionnelles. Donc c'est Omega Men, Vie brève. Cela, je le recommande particulièrement. Pour finir, la dernière chose qui est intéressante, qui est proposée dans ce livre, c'est Alan Moore avait proposé d'écrire un event post-Infinite Crisis qui était prévu pour une forme de Ragnarok, donc il se fait s'appeler Twilight, c'était sa proposition, sur la fin des super-héros, un peu sur leur déclin.
Crépuscule.
Voilà. Et on nous offre dans ce livre tout le. En fait, il aurait envoyé une lettre qui contiendrait a priori tout le script, enfin global, tous les fils narratifs de cette grande histoire. Et elle nous est proposée ici, verbatim. Donc après, c'est littéralement du texte écrit sur papier. Il va se passer ça, il va se passer ça, machin ferait ça, comme ça, on caractériserait tel personnage comme ça. Et c'est très intéressant sur une vision du comics d'époque, sur aussi. Sur comment construire aussi un event, en fait, parce qu'il y a aussi cet aspect de comment construire cet event là, on écrit Flash comme ça, machin. Donc voilà, vraiment une recommandation très intéressante de mon côté. Enfin, c'est quelque chose que je recommanderais à tout le monde parce qu'il y a vraiment quelque chose à épicorer.
Bah écoute, voilà. Visiblement, oui, ça m'a l'air très intéressant. Merci, XT.
J'entends juste un dernier point sur le script. C'est intéressant de voir le Alan Moore avant tous les déconvenus qu'il a eu avec
c'est quand tout se passait bien avec DC.
C'est un autre Alan Moore. Oui. C'est très intéressant aussi de ce point de vue-là.
Beaucoup plus joyeux.
C'est parfait.
C'est très bien, joyal. Mais c'est sur cette joyale note que nous allons nous tourner vers la non moins joyale luxe. Qu'est-ce qui a fait vibrer ton petit kokoro ?
Alors, moi, je vais vous parler de la BD qui m'a illuminé ma période de Noël, puisque donc je l'ai eue à Noël. Et qui est un énorme, énorme, énorme coup de cœur, sans exagérer. Et j'espère que vous l'avez eu à Noël parce que visiblement elle a eu beaucoup de succès, je vais en revenir dessus. Mais si c'est pas le cas, j'espère que je vais vous donner envie de la lire. Je vais vous parler de Les Guerres de Lucas, qui est donc l'œuvre de deux types. Le premier, l'auteur, c'est Laurent Hopman, qui est un ancien journaliste, qui est également éditeur et scénariste. Et au dessin, nous avons Renaud Roche, qui est donc, qui lui sort de l'école des Gobelins et qui est surtout spécialisé dans l'animation, puisqu'il a participé par exemple au film Migration qu'on a pu voir sur les écrans récemment. Pour l'anecdote, c'est édité par une maison d'édition qui s'appelle Les Éditions de Man, qui est donc une toute petite maison d'édition, puisque avant Les Guerres de Lucas, il n'avait édité que deux bouquins qui étaient un peu sortis de façon assez
confidentielle.
Confidentielle, c'est exactement le terme, et qui là explose grâce aux Guerres de Lucas. Et il faut savoir que le responsable des éditions, c'est le scénariste, c'est Laurent Hopman. Donc il est à la fois au four et au moulin, mais au moins comme ça, il a la main mise sur son œuvre et il a fait tout ce qu'il voulait. Qu'est-ce qu'il a voulu faire, Laurent Hopman ? Laurent Hopman, c'est un grand fan de Star Wars. Il a lu... ouais, ça dépend des fans de Star Wars, malheureusement. Donc, je suis obligée de tempérer cette expression.
Ah, oui, pardon.
Mais voilà. Mais en tout cas, il adore Star Wars. Ça nous fait ça au moins en commun. Et il est allé lire des tas de bouquins, des biographies, des making-of, des choses comme ça. Il a tout compilé et il en a fait un scénario de BD. Elle est géniale. Franchement, c'est une compilation d'infos incroyables. Ça part de la jeunesse de George Lucas, qui nous permet en fait de nous faire une idée un peu sur la personnalité du bonhomme, parce que c'est vrai qu'on connaît son nom, mais on ne connaît pas forcément qui il est. Et ensuite, ça va partir de « j'ai une idée » à « je vais écrire un scénario » à « je vais essayer de trouver des fonds »,« je vais réunir des gens », etc., etc., etc. Jusqu'à ce que en fait, la BD s'arrête après la sortie du film au cinéma. C'est passionnant. Si vous êtes fan de Star Wars, c'est un indispensable. Je ne mâche pas mes mots, c'est un indispensable parce que vous avez des tas d'informations à l'intérieur que vous connaissez peut-être déjà. Il y avait des tas de trucs que je connaissais et il y avait des tas de trucs que je ne connaissais pas et que j'étais très contente d'avoir appris. Si vous n'êtes pas un fan de Star Wars, ça reste une très bonne BD parce que la narration est très léchée, le scénario est... Il y a des rebondissements en fait à toutes les pages parce qu'il y avait des rebondissements dans la vraie vie aussi. Mais du coup, c'est bien écrit, c'est bien rythmé, donc c'est une BD qui est très très agréable à lire. Il y a deux pages de bibliographie à la fin, donc si vous avez des doutes sur la véracité des informations qui sont à l'intérieur, vous n'avez plus qu'à vous reporter à ces deux pages.
C'est sourcé.
C'est hyper sourcé. Et voilà. Donc, vraiment un énorme coup de cœur parce que je suis une grande fan de Star Wars, mais j'ai vraiment envie de conseiller cette... Je la conseille à tout le monde. Dès que quelqu'un me dit « Tiens, je suis tombée sur Les Guerres de Lucas », je dis « Lis-le, vas-y, il faut le lire !»
C'est pas sorcier, lis-le.
Voilà, c'est pas sorcier, lis-le. comme j'aime bien me la péter un peu, évidemment, j'ai choisi une BD qui a eu des prix. La BD a été lauréate du prix BD Fnac France Inter 2024 et ils ont également reçu le prix BD France Info. Donc voilà, j'espère vous avoir convaincu. Je ne sais pas si d'autres personnes l'ont lu autour de la table.
France Info Outcast, c'est parti.
Oui. Oui, effectivement, j'ai eu l'occasion de le lire aussi et c'était effectivement hyper cool, notamment sur le process de création d'un univers, les difficultés que ça représente. Ça ne fait pas l'apologie pour autant de Lucas. Il y a du gris aussi un petit peu sur le comment c'est fait. C'est ultra sourcé. D'ailleurs, il n'hésite pas à le dire. Je crois en préambule, il dit tout ceci a été vérifié. Vraiment, il insiste là-dessus et il a raison parce que ça en fait la force de ce récit. Il y a peu apparemment de digression. C'est vraiment basé sur des faits confirmés et c'est super intéressant. Moi notamment, même si j'ai un petit peu effectivement le background de Star Wars, j'avais jamais vraiment vu de making of ou de qu'est-ce qui s'est passé au moment des tournages, etc. Et du coup, j'ai plutôt appris pas mal de choses, à part une inimitié qui était assez connue, mais je vous dirais, vous verrez bien en le lisant.
Que moi j'ai appris du coup à l'occasion de la lecture, voilà. Pour conclure, je ferai juste deux petites remarques. La première, c'est, on dit souvent que derrière un homme de talent, il y a une femme qui se cache. En lisant Les Guerres de Lucas, vous verrez que sans la femme de George Lucas, Star Wars n'existerait pas. Oui. Donc voilà. Et la deuxième chose, c'est que récemment, les auteurs ont rencontré George Lucas qui a adoubé la BD, si je puis dire. En tout cas, il la valide parce qu'il y avait toujours, il y avait le risque de, ben, quand t'écris une BD sur quelqu'un, tu sais pas comment la personne va réagir parce que comme l'a sous-entendu, comme l'a sous-entendu Regen, le portrait de George Lucas n'est pas lisse, donc on sait pas trop comment il l'aurait pris. Et visiblement, il l'a bien pris.
Ah, bien.
Donc voilà.
C'était une question justement que je voulais poser. Ça n'a pas eu l'aval de Lucas avant la sortie.
C'est
un travail de journaliste.
C'est un travail de journaliste. Effectivement. Et information que je n'ai pas donnée, je crois, c'est 200 pages pour 24,90 €.
Juste une dernière chose. Alors, c'est sur ma pile à lire, mais pour vous donner un exemple concret de l'universalité de ce bouquin-là, il a été fortement apprécié, un, par ma belle-mère, qui n'est pas une fan de Star Wars, mais qui a trouvé le livre extraordinaire, et par mon fils, qui l'a eu en cadeau de Noël, qui lui, par contre, bien évidemment, est tombé dedans.
De 7 à 77 ans.
Quoi. Voilà, et donc je pense que ce succès, c'est certainement dû au fait que ça parle à tout le monde. Ce
probablement.
Qui est très, très bien. Ce qui
oui.
est très, très bien. Merci, Lux.
Je t'en prie.
On continue. Regen, toi, qu'est-ce qui t'a fait vibrer ?
Eh bien, écoutez, je vais vous parler de Friday, sorti chez Glénat Comics. Enfin, Glénat Comics, oui. Bon, ouais. En tout cas chez Glénat.
It's complicated.
Oui, c'est compliqué. Y a deux tomes qui sont sortis, le premier en janvier 2023 et le deuxième en août 2023. Ce sera en trois tomes, si tout va bien. C'est 19 € le tome, pour information. Et les auteurs sont Ed Brubaker et Marcos Martin. Et oui, des messieurs dames qui travaillent dans le comics. Je rajoute aussi d'ailleurs Muncha Vicente côté couleur. Friday, de quoi ça parle ? Ça parle de Friday Fitzberg, Fitzug, pardon, F-T-Z-H-U-G-H, Fitzug, bon, bref, qui revient dans sa bonne vieille ville, de, voire village, hein, de Kings Hill, pour les vacances de Noël. Donc, elle a passé, évidemment, son enfance là-bas, elle s'était éloignée, et elle avait notamment son ami d'enfance, Lancelot Jones, qui lui est resté dans la petite ville et qui lui, ils travaillaient, donc ils étaient ensemble à l'université, au lycée, collège, tout ça. Et c'était un petit peu les enquêteurs locaux, ambiance un peu Scooby-Doo, un peu léger, travailler sur le fantôme du manoir, ce genre de choses. Et donc il travaillait avec, même avec la bienveillance du shérif local qui trouvait ça un petit peu marrant et ils les ont même aidés dans des enquêtes durant leur jeunesse, sauf que de l'eau a coulé sous les ponts et que quand Friday revient à King's Hill, ben on sent qu'il y a eu des choses qui sont passées entre temps et que c'est pas vraiment le bonheur fou avec Lancelot quand elle va le revoir. On sent qu'il y a eu des choses entre eux, qui se sont mal passées. On n'a pas tous les détails initialement, mais effectivement, leurs retrouvailles ne sont pas vraiment au top du top, quoi. Et donc, ils vont bien sûr se lancer dans une enquête, effectivement, inévitablement, sur une étrange apparition dans les bois.
Oh.
Que de mystère. Et donc, ça démarre comme ça. On va vite en apprendre un peu plus sur leur relation. Qu'est-ce qui s'est passé entre eux ? Pourquoi il semble d'avoir une tension entre eux qui n'avait pas été réglée lors de son départ ? Qu'est-ce que devient effectivement ce petit village ? Est-ce que c'est vraiment des enquêtes Scooby-Doo ? Ou est-ce qu'il y a un peu plus derrière ? Donc, on va doucement mais sûrement voir un changement au niveau du récit.
On quitte l'innocence.
Hein. Exactement. Ouais. Et c'est ça que j'ai trouvé très intéressant dans ce récit, c'est que ça commence assez sympathiquement, sans plus. Et on va littéralement passer de Scooby-Doo à The Thing. Voilà.
Ah ouais.
Ça, alors, okay. J'en rajoute un peu, mais c'est cette ambiance-là. Hein.
John Carpenter.
Voilà.
John Carpenter. Ça y est, j'ai eu son attention.
Et ce qui est vraiment cool, c'est que je trouve que même si on retrouve l'ambiance enquête si chère à Brubaker, bien sûr, au niveau de ses récits, je trouve que ça change un petit peu de ses habitudes. C'est même d'ailleurs flagué en young adulte. Bon, ça, voilà, hein, ça vaut ce que ça vaut. Mais ce glissement, doucement mais sûrement, va rajouter donc des éléments fantastiques d'horreur, on peut dire ce qui est, aussi de fantastique SF. Et vraiment, on a des cliffhangers, une augmentation, une boule de neige qui se met à rouler. Et on se fait en prendre dans le récit. C'est plutôt cool. J'ai été surpris. Pour vous être honnête, moi, la première issue, donc l'équivalent de la première issue dans le premier bouquin, j'avais trouvé ça sympa, mais bon, en mode, est-ce que j'ai vraiment envie de lire des enquêtes d'ados sur du paranormal d'école?
Autant lire Lumberjanes.
Exactement. Et vraiment, je me suis pris au jeu et ça se développe petit à petit. J'ai hâte, du coup, de lire le 3 quand il sortira. Qu'est-ce que je peux ajouter? Oui, les dessins de Marcos Martín sont un style très particulier, objectivement, mais que je trouve qu'il accompagne bien ce récit un petit peu dérangeant. Qui va crescendo, comme on disait, avec des tragédies, hein, avec des éléments pas très joyeux, mais c'est très très cool, notamment la mise en page et la colo qui donne un côté très très feuille carte postale qui va partir un petit peu en sucette. Et donc, écoutez, bah, je trouvais ça vraiment très sympa, une bonne surprise.
Alors, très chouette.
Et hâte de lire le troisième tome.
Parfait. Quelqu'un l'a lu autour de la table?
Non.
Non.
Moi non plus. Donc on te fait entièrement confiance, Regan, pour...
Merci, j'apprécie votre vote de confiance.
Et Matt?
Motion de censure.
Alors. Et toi, Matt, qu'est-ce que...
Et toi-même?
Eh bien, écoutez, moi, tout de suite, ça va être moins joyal comme lecture, puisque je vais vous parler de Kadat, l'inconnu, publié chez Black River en novembre de l'année dernière, novembre 2023, 224 pages, 19,90 euros. Donc, Kadat, l'inconnu, est un comics qui est tiré, bien évidemment, enfin non, bien évidemment non, si vous ne le savez pas, vous ne le savez pas, mais de l'œuvre de Howard Phillips Lovecraft, encore lui, qui avait écrit un roman qui s'appelait La quête onirique de Kadat l'inconnu. Le comics a été écrit par, enfin, adapté par Florentino Flores, au dessin Guillermo Sana et Jacques Salomon, cherchez l'intrus. La quête onirique de Kadat l'inconnu, si je reviens, Lovecraft, donc Howard Philip Lovecraft, auteur, on va dire fondateur d'un certain courant de la littérature horrifique, auteur américain, mondialement connu, pour le meilleur comme pour le pire. La quête onirique de Kadat l'inconnu, dont est tiré Kadat l'inconnu chez Black River, a une place spéciale chez les amateurs. Ça ne fait pas proprement parler du mythe de Cthulhu. C'est assez, assez spécifique. Bon, moi, ça m'a plu, ça m'a touché, et je vais vous expliquer pourquoi ça m'a touché. Ma relation avec Howard Phillips Lovecraft, elle est assez particulière. Je l'ai très, très mal dit. Howard Phillips Lovecraft est très particulière. C'est, dans mes années d'adolescence, une partie de la constitution de mon imaginaire. Enfin, faut vous replacer dans une décennie que je ne citerai pas ici, mais avec un accès à la culture qui était encore très particulier, avec une connaissance en fait de cette littérature, quelle qu'elle soit, dans des cercles très restreints, notamment quand on habite au fin fond de la province. Donc c'est quelque chose qui m'a profondément marqué, qui, comme je le disais, qui a constitué une partie de mon imaginaire avec une espèce de cycle d'attirance, parce qu'il y a un côté mystérieux, un côté séduction et un côté répulsion, voire même révulsion dans certains écrits. Et je cite là de manière tout à fait crasseuse un autre comics qui lui était paru chez Panini Comics, Alan Moore, encore lui, qui était Providence, qui par contre n'a rien à voir avec Kadat dont je vais vous parler. Donc attention, l'un n'est pas l'autre. Providence, moi, ça m'a choqué. Il y a vraiment des passages qui sont...
Il y a de quoi l'être.
Ah oui. Profondément traumatisants.
Noter que ça vient de ressortir en belle édition chez Panini tout récemment.
Ah, c'est un beau comics, mais...
pour le coup, tu vois, comme je disais, je ne suis pas un aficionados de Lovecraft, mais c'est vrai que Providence, il vaut mieux l'être un minimum pour tout suivre. Mais par contre, c'est le talent d'écriture qu'il y a derrière. Quoi.
Ça, c'est vrai. Donc, Kadat, un petit peu à part, les récits Lovecraftiens sont toujours des récits qui sont sans espoir. C'est peut-être pas le cas. Et c'est peut-être
Est-ce
ce qui fait ressortir Kadat.
Est-ce qu'il y a des spoms? Continue.
Je ne l'ai pas. C'est pas grave. Kadat, qu'est-ce que c'est? Kadat, c'est une cité mystérieuse qui a été aperçue en rêve par le protagoniste de notre comics qui s'appelle Randolph Carter, qui est un rêveur professionnel qui réussit en fait à se balader de rêve en rêve et à vivre une deuxième vie à travers ses rêves. Kadat, c'est une cité qu'il a toujours pu entreapercevoir mais à laquelle il n'a jamais pu accéder, et en essayant de forcer l'accès à la ville de Kadat, il en a été expulsé par les dieux du panthéon lovecraftien. Donc pour y accéder, il décide de se lancer dans un voyage quête initiatique très obscur, comme tout ce qui peut l'être chez Lovecraft, pour accéder à Kadath, qui est la ville des dieux. Dans cette quête initiatique, il va rencontrer des créatures horrifiques, telles qu'on peut en rencontrer dans cette littérature-là. En traversant des mondes hostiles, heureusement, Randolph Carter va trouver des aides inattendues, des ghouls et aussi un petit chat bien mignon. Et le roi des chats, un beau roi des chats qui vont venir l'aider, puisque comme chacun sait, les chats vivent leur vraie vie sur la face cachée de la lune. C'est vrai, hein, c'est ce qui est écrit. La difficulté d'une œuvre comme celle-là, avec tout ce que j'ai pu vous dire sur moi, l'imaginaire que Lovecraft a pu générer chez moi, c'est la transposition de ce que moi j'avais dans la tête, de l'imagination, de ce que j'ai pu imaginer, de ce que Lovecraft, j'ai du mal, hein, a pu écrire, et le papier. Il y a un parti pris qui a été pris par Flores dans la façon dont l'histoire est découpée, la façon dont l'histoire est présentée. Le parti pris est réussi. Donc chapeau, parce que c'était vraiment pas évident. Il y a des très bons choix narratifs qui rendent l'histoire accessible, même, alors au contraire de Providence dont on a parlé, même si vous n'y connaissez rien, l'histoire est accessible et ça a réussi la maestria non seulement de rendre l'histoire accessible, mais sans perdre la caractéristique et le goût particulier de ce récit. Il y a des choix ingénieux avec des représentations qui font référence à d'autres grandes œuvres assez mythiques dans le monde de l'imaginaire et de l'horrifique. C'est une lecture que je vous recommande. Les dessins, disons, servent l'œuvre, mais ce n'est pas véritablement la raison pour laquelle il faut se porter acquéreur de ce bel ouvrage qui fait honneur au mythe de Lovecraft. Quelqu'un a lu Kadath autour de la table ? Je crois que...
Oui, moi je l'avais lu. En fait, je pense que je suis passé un peu à côté. Tout simplement. Je pense que c'était pas forcément un titre pour moi, et pourtant je suis pas complètement fermé, mais je suis pas réussi à rentrer dedans, en fait, narrativement. C'était intéressant, mais j'arrivais pas à rentrer dans le récit vraiment. Je voyais les pages qui défilaient devant moi sans arriver à rentrer complètement dedans, malgré moi, pour coup, il y a les petits chats dans la face cachée de la lune. Clairement, c'est pour moi, c'est ma cam, pareil, tu vois. Là, il y a tout pour m'attraper, mais voilà. Pourtant, bon, je pense que c'est peut-être une relecture repasserait mieux.
Ouais. Eh bien écoutez, je crois qu'on a fait le tour.
Yep. Mmh.
Parfait. Merci énormément à toi, Lux, et à vous, messieurs, pour ce numéro 2 de Croissant Outcast, donc qui, je le rappelle, est une
baguette.
Série dérivée. Mmh, oui, 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 la baguette est une série dérivée de l'émission. On va y arriver. De l'émission canonique qui est Comics Outcast. On envisage, sans que ce soit contractuel, que ces épisodes sortent tous les 15 jours. On viendra vous faire part.
Moi.
Tous les 15 mois ?
Moi.
Tous les 15 mois, oui. Tous les mois, pour que nous venions, pas forcément nous, hein,
oui,
d'autres intervenants de Comics Outcast, d'autres membres du VHS, venir partager leur coup de cœur sur de la BD franco-belge, comme on a pu le voir ce soir, ou des recueils en version française. Il ne me reste plus qu'à vous remercier. Vous remerciez vous également, auditrices, auditeurs, pour votre fidélité. À très bientôt.
À bientôt.
À bientôt.
Bye bye.
Bye bye. Il
fallait terminer un truc anglais pour UBS, bien sûr.
Fin de transmission.